Bonjour, je ne peux vous remercier d'être venu aussi nombreux aujourd'hui, mais j'espère qu'il y aura des gens de l'autre côté de l'écran pour assister à cette reprise des cours qui ont été interrompus après la 10e leçon, vers le début du mois de mars. Nous reprenons donc aujourd'hui au mois de juin, mais c'est la 11e leçon, la 11e sur les 13, qui est consacrée, comme vous le voyez, au Kojiki et ses relations avec ce que j'appellerai le verbe. Vous allez voir, enfin, et vous savez déjà que c'est la traduction du japonais koto, et dans l'acception singulière aussi que lui donne Motori Norinaga. Donc nous avons passé plusieurs leçons à lire aussi attentivement que possible, dans le peu d'heures à notre disposition pour un tel sujet, ce que Motori Norinaga considérait comme essentiel dans le roman du Genji. Au vu de certaines réactions à notre lecture, qui est un peu, sinon originale, du moins personnelle, il doit être répété que ce sont bien les idées de Norinaga qui sont ici en question, et non leur validité en comparaison des interprétations dominantes du Genji Monogatari, et en particulier des miennes. Il s'agirait alors d'une toute autre chose. Ce qui a attiré avant tout notre attention dans cet opuscule dont il faut encore une fois rappeler que, bien qu'il fût l'un des premiers rédigés par Norinaga, alors âgé de 33 ans, il fut repris dans sa somme exégétique, qui est intitulée « Genji Monogatari Tama no Oguchi », le précieux peigne du Genji Monogatari, et un texte qu'il acheva quelques années avant son Kojikiden. On peut dès lors considérer que son interprétation n'avait pas changé, bon, puisque ça a été repris dans un travail de la fin de sa vie. Et quand l'opuscule dont je parle, c'est évidemment l'essentiel du Genji, le Shibun Yōryō, n'est-ce pas, l'essentiel du texte de Murasaki Shikibu. Nous l'avons vu à maintes reprises. Pour Norinaga, l'essentiel du Genji est dans le mouvement de communion qu'il crée entre le texte, son auteur et le lecteur. Et ce mouvement est cristallisé dans l'appellation de Mono no Aware. Bon, si je puis me permettre une petite digression, encore une fois pour répondre aussi à quelques objections, j'ai proposé, et je ne suis pas tout seul, je l'ai vu à plusieurs reprises, de le traduire par le mot « empathie ». Analyser selon le grec « empatheia », n'est-ce pas littéralement, donc la sensation, le sentir, le ressenti, ou à l'intérieur de quelqu'un, en se projetant à l'intérieur de quelqu'un. C'est un texte, c'est un terme évidemment qui est spécialisé, qu'on ne peut pas utiliser dans une traduction poétique du texte « aware », « mono no aware ». C'est, serait mieux de l'utiliser le mot allemand Einfühlung, qui est le décalque simplement germanique du mot grec. Et nous pourrions, en le retirant de son contexte psychanalytique, parler de projection empathique, par exemple, qui rend bien le mouvement impliqué par l'interprétation de Norinaga. En effet, le mononawale, comme nous l'avons dit et nous le redirons, est un sens grammatical qui serait plutôt pour moi un sens directionnel, n'est-ce pas, vers quelque chose. En traduction littéraire, on pourrait dire l'émotion partagée, enfin plus littéraire, partage d'émotions, ou compassion. Et on va voir que compassion n'est pas aussi saugrenue qu'on pourrait le penser à première vue. Et pourquoi pas rapatrier le mot anglais « poignance » qui existait ou qui aurait pu exister en français autrefois. Donc c'est cette appellation de « mono no aware » qui est pour Norinaga l'essentiel du Genji, le « yōryō » en quelque sorte. À travers les longs développements qu'il consacre à sa description, à la description de ce sentiment, et bien qu'il soit loin d'être des exposés systématiques, nous avons penser, discerner à quoi correspondait cette insistance sur ce concept. Il était en effet important, essentiel même pour Norinaga, déjà à ce stade premier de sa réflexion, de récuser ce que nous appellerions de nos jours toute tentative de récupération morale du roman par des systèmes de pensée continentaux, qu'ils soient confucianistes ou bouddhiques, la mentalité chinoise. Alors que c'est l'essentiel des interprétations du Genji Monogatari, avant et après Norinaga, ont consisté justement à des récupérations morales ou idéologiques. L'un de ses arguments les plus forts à l'encontre de cette récupération morale est précisément que le protagoniste du roman, le prince radieux lui-même, est un personnage amoral et que sa conduite ne saurait être jugée de ce point de vue. Il se fonde aussi sur la sympathie évidente qu'a la romancière, Murasaki Shikibu, à l'égard de son personnage et dont elle entretient régulièrement le lecteur pour démontrer, pour ne rien dire, que l'intention auctoriale ne peut être de mettre en garde contre ses agissements. Il n'y a pas de imashime, de message moral. Il serait cependant impossible de remettre en question l'évidence selon laquelle l'impulsion qui meut le personnage principal et bon nombre des autres est ce qui est appelé par Norinaga lui-même le kōshoku et que nous rendons par passion amoureuse, par la passion amoureuse. Alors nous avons aussi choqué quelques personnes en parlant d'érotomanie, n'est-ce pas, à propos du Genji. Le terme kōshoku, si l'on le traduisait littéralement, ne serait pas loin du sens de érotomanie. Et puis, il y avait un petit jeu de mots privé, si j'ose dire, entre ido, le terme japonais, la lecture japonaise de shoku, n'est-ce pas, qui est ido, la couleur et aussi le désir amoureux, la forme objet du désir, et le grec eros, et en grec ancien d'ailleurs, eros, c'est-à-dire que éromanie, on pourrait parler de idomanie ou éromanie, idomania, n'est-ce pas, qui nous rendrait plus proche le terme de kōshoku. Mais le fait est que kōshoku, lorsque Norinaga utilise ce terme, évidemment ce n'est peut-être pas un jugement moral, mais c'est quand même une description assez adéquate et presque quand même chargée, n'est-ce pas, d'une attitude dont on ne peut ignorer cette nuance d'érotomanie si l'on considère que Norinaga, bien que travaillant sur des textes très anciens, est quand même de son époque, et que ce texte, l'essentiel du roman du Genji, qu'il écrit à l'âge de 33 ans, comme je viens de le dire, eh bien, c'est une soixantaine d'années, n'est-ce pas ? Nous sommes en 1766, c'est donc presque 70 ans après la mort de Ihara Saikaku, du grand romancier du XVIIe siècle, Ihara Saikaku, qui a fait des séries de ce qu'on pourrait appeler des romans sous l'appellation de kōshoku, n'est-ce pas, qu'on a traduit en français de différentes façons, mais dont l'essentiel est bien un jugement, une description de personnages possédés par je ne dirais pas la luxure, mais l'esprit, une sorte de donjuanisme pour les hommes et de passion amoureuse mal placée pour les femmes, n'est-ce pas ? Donc, il n'est pas du tout... La condamnation morale n'en est pas loin, en réalité. Mais si c'est précisément la thèse que défend Norinaga, l'immoralité même du Genji, l'immoralité ou la moralité même du Genji, le met hors des cadres idéologiques continentaux. Ce n'est donc pas là qu'il faut chercher l'intention foncière de la romancière, ce qu'il a appelé le hōi, n'est-ce pas, moto no kokoro, qui est un terme bien connu par ailleurs dans la critique poétique japonaise. Nous le savons à présent, après les leçons précédentes, Norinaga trouve cette intention foncière dans le mono no aware. Nous avons vu que, selon les explications de Norinaga lui-même, ce sentiment est exclusivement humain et qui ne concerne pour lui que le rapport que tisse la romancière entre ses personnages, mais que ce rapport s'extériorise en direction des lecteurs. Le mono no aware relie l'autoresse, les personnages, le lecteur. Bien que cette conception du mono no aware ne soit pas propre à Norinaga, il semble bien que ce soit à lui que l'on doive cette extension transdimensionnelle du sentiment au-delà des cadres du livre pour se divulguer dans le monde réel. Je rappelle ce poème de Sunzi, n'est-ce pas, le grand poète du XIIe siècle, de l'époque où le Genji Monogatari commence à devenir non plus un livre très lu, un livre populaire, un livre d'amateur de lecture, mais un monument littéraire du Japon. Je rappelle ce poème de Shunze, donc sans l'amour, n'est-ce pas, c'est comme on dirait une chanson d'Edith Piaf, Koise Zumba, Hito wa kokoro mo nakaramashi. Mono no aware mo sore yori zo shiru. Mono no aware, le terme apparaît bien. Donc, sans l'amour, le cœur humain n'existerait point. C'est par lui aussi que nous connaissons l'empathie. Le koi, n'est-ce pas, par l'amour. On pourrait faire vraiment de très longues digressions sur ce poème, mais malheureusement, nous n'avons pas le temps. Et ici, évidemment, le mono no aware désigne clairement l'amour humain. Et nous pourrions dire aussi « Koise Zumba » s'il n'aimait pas, si les gens n'aimaient pas. « Shito », n'est-ce pas ? Donc, nous l'avons dit, cette conception placée fort consciemment par Norinaga au centre de son interprétation du Genji a un rôle majeur, celui de le dégager de tout contexte moral fondé sur des courants extra-japonais. Nous allons voir que c'est une idée constamment répétée. Et de mettre aussi en conséquence le roman entièrement dans l'univers japonais. On se rappellera que c'est la projection empathique, le mono no aware, qui est pour Norinaga le cœur essentiel qui lui permet d'identifier roman et voix de la poésie. Nous reviendrons là-dessus. Le kado, n'est-ce pas, c'est-à-dire uta no michi, la voix de la poésie. Et cette identification est renforcée par l'appellation de uta monogatari, le roman à poème, qu'il confère finalement au Genji. Telle est donc la conclusion que nous pouvons retenir de la lecture du Shibun Yorio, l'essentiel du Genji, l'identification du roman et de la voix de la poésie, identification rendue possible par la suppression du caractère moral de l'œuvre et son recentrage sur l'expression poétique. À partir de cette base, nous pourrons retourner vers un concept tout aussi central dans la pensée de Norinaga, qui est celui de Michi, la voix, dont nous avons vu qu'il y a consacré de nombreux ouvrages, de nombreux passages, notamment dans son Tamakatsuma, qui est un recueil de propos assez décousus, mais où on a des renseignements très précieux sur ses conceptions. Ces passages avaient la plupart pour intention de démontrer que les concepts étrangers de voix ne pouvaient s'appliquer à la voix telle que lui l'entendait. Il nous faut revenir sur ce sujet en raison même de l'itinéraire intellectuel de Norinaga, puisque nous voyons qu'alors que l'essentiel de son œuvre est en réalité une minutieuse recherche philologique ayant pour but d'élucider, de décrypter les textes anciens, il y trouve par force peu d'occasions de se livrer à des exposés systématiques d'où nous pourrions tirer des enseignements directs. Il nous faut faire quasiment un travail d'orpailleur pour trouver ces idées qui sont quand même suffisamment répétées pour nous donner des indications assez claires. C'est pourquoi nous allons consacrer cette leçon et la suivante à l'enchaînement, à l'enchaînement de trois textes qui devraient nous montrer comment la simple notion de voix chez Norinaga mène directement à une conception unificatrice où cette voix, V-O-I-E, n'est-ce pas, vox, via en latin, ouvre sur la fusion avec le verbe, la parole, koto, la vox, n'est-ce pas, la voix V-O-I-X, qui est le but ultime de sa réflexion. Mais avant d'en arriver à ce terme, nous devons repasser les étapes préliminaires. Et nous verrons tout d'abord un texte très court, que nous avons déjà mentionné au début de ces leçons, un texte dont la version définitive, après trois précédentes, est datée de 1790. Mais cette version définitive est très proche de celle de 1771, qui peut donc être quand même considérée comme la dernière. Je renvoie, pour ceux que ça intéresse, à Sei Nishimura, The Ways of the Gods, voilà, donc qui est une présentation, une traduction de Naobi no Mitama, qui est le texte sur lequel nous travaillons maintenant. De cet opuscule, désormais intégré dans le grand œuvre de Norinaga, le Kojiki Den, n'est-ce pas, le grand commentaire du Kojiki, nous ne retiendrons pas ces critiques renouvelées contre les voies continentales, nous les retrouverons par force, sur lesquelles nous avons passé suffisamment de temps, mais nous verrons plus longuement de quelle façon ce qu'il dit sur la voie prépare les deux textes suivants. Il s'agit donc d'un texte très court qui sert d'introduction à son Kojiki Den et est censé définir la voie des dieux. Il est placé sous l'invocation de Naobi no Kami ou Naobi no Mitama, Naobi désignant la pratique ascétique menant à la purification des souillures provoquées par les mauvaises actions. C'est important, vous allez voir, parce que ça règle en quelque sorte le problème moral pour Norinaga. Ce dieu est donc la divinité de remise en état, après les déperditions provoquées par la divinité pernicieuse, personnifiée, elle, par Magatsubi no Kami, qui est en quelque sorte le catalyseur de la venue à l'existence du Naobi no Mitama. Alors, je n'entrerai pas dans la question de savoir s'il s'agit d'un dieu ou de deux dieux, voire de plusieurs dieux, qui ont Magatsu dans leur nom, n'est-ce pas ? Yasso Magatsubi, O Magatsubi, qui sont tous deux issus de l'ablution primordiale, vous savez, de Izanagi lorsqu'il se détache de la souillure de la mort. Donc, par la commodité, pour l'exposé, je choisis le singulier, pour l'instant, malgré les divergences d'opinion, ce n'est pas du tout une prise de position. Ce dieu de la rectification ou de la restauration, donc Naobi, n'est pas mentionné ailleurs que dans le titre, dans l'opuscule, et qui n'est d'ailleurs que le dernier des trois versions et sur lesquelles nous reviendrons. Ce que mentionne Norinaga explicitement, en revanche, c'est le dieu pernicieux Magatsuhi no Kami, ou Magatsubi, n'est-ce pas ? Il le fait dans les termes suivants. La première citation. En ce monde, comme nous avons très peu de temps, je ne lirai pas les citations japonaises, je me contenterai des traductions. Donc, il le fait dans les termes suivants, à partir du premier axiome. En ce monde où tout ce qui existe sur la terre comme au ciel est entièrement de l'auguste cœur, c'est-à-dire le Mikokoro, n'est-ce pas, des dieux, Kami no Mikokoro Naruchini, etc. Donc, dans les gloses développées que l'auteur insère presque après chaque phrase du texte principal, il explicite ainsi cette proposition. C'est la deuxième citation ici. L'ensemble des événements, alors koto, n'est-ce pas ? Ici, il précise le sens avec koto, mais nous allons voir le double sens, l'au moins double sens de ce mot dont vous connaissez déjà les nuances. Donc l'ensemble des événements du monde, yononaka no koto wa, tels que le passage des saisons, la pluie qui tombe, le vent qui souffle, de même que pour le royaume et pour les hommes, les myriades d'événements, yorozu no koto, auspicieux ou malheureux, yoki, ashiki, et vous voyez que ce sont les caractères qui nous incitent à mettre yoshiki et ashiki dans le sens de auspicieux ou de mauvais augure, alors qu'en réalité c'est bien plus général, ça peut vouloir dire aussi bons ou mauvais, mais comme d'habitude, Norinaga précise sa pensée par le choix des caractères. Donc tous ces événements sont tous le fait des dieux, kami no shiwaza. Et il poursuit sur cette même idée des mauvais dieux, la troisième citation, Sate Kaminiwa, etc. Or, pour ce qui est des dieux, il y en a de bons et il y en a de mauvais. Et vous voyez qu'ici, il utilise d'autres caractères, le chinois, Zen d'un côté, Aku de l'autre. Tout à l'heure, nous avions Kichi et Kyo, et Zen et Aku, ici, est le sens moral, n'est-ce pas ? Ce n'est plus auspicieux ou de mauvais augure, c'est bon et mauvais au sens moral. Le japonais, toutes les nuances du japonais se déploient par les caractères chinois qu'utilise Norinaga. Donc, pour ce qui est des dieux, il y en a de bons et il y en a de mauvais, dont les faits aussi leur correspondent. Aussi sera-t-il généralement impossible de les jauger, ces faits, n'est-ce pas, les hakari gataki waza, selon les principes ordinaires, yo no tsune no kotowari, cela va revenir constamment, la raison du monde n'est pas celle des dieux. En ce cas, nos contemporains, yo no hito, tous tant qu'ils sont, des intelligents aux imbéciles, n'est-ce pas, kashikoki mo orokanarumo, oshinabete, tous tant qu'ils sont, égarés qu'ils sont par la variété des idées, koto ou tokigoto, des voix étrangères, totsukuni no michi, ne peuvent comprendre leurs intentions, leur sens. Kono kokoro o eshirazu, les humains ne peuvent comprendre l'intention des dieux. Avant de revenir plus tard sur la nécessaire explication du terme de koto, il convient de s'arrêter sur le caractère inattendu de cette phrase au regard de ce que nous avons vu jusqu'à présent des idées de Norinaga. Il aborde en effet ce que nous ne pouvons appeler qu'une question morale fondamentale, celle des dieux mauvais, et donc du caractère divin du mal. Les dieux ne sont pas bons par définition. Certains sont assurément mauvais. À la lumière des pages sur le Genji que nous avons lues, comment peut-on relier ces deux positions? Il semble clair en effet pour lui que la conduite du prince radieux ne puisse être considérée du point de vue moral, car l'intention littéraire de Murasaki Shikibu ne saurait s'inscrire dans une telle perspective. Le mono no aware, la projection empathique, échappe à la discrimination morale. On croit cependant discerner une solution à la lecture de ce passage du Naobi no Mitama. Voyons en effet comment il poursuit aussitôt après la première phrase à propos de l'existence de toute chose fondée sur l'auguste volonté des dieux. Voilà, ici, n'est-ce pas ? La première citation, les accès de fureur de l'auguste cœur, Mikokoro no Arabi Hashi, Kamatsubi no Kami, n'est-ce pas, ou Kamatsushi, c'est le premier caractère, auquel on ne peut rien, Semsube Naku, on ne peut rien, il n'y a rien à en faire, on ne peut rien y faire en tant qu'humain, son motif de grande tristesse, Itomo Kanashiki Waza. Donc, le Kamatsubi no Kami, qui, comme son nom l'indique, n'est-ce pas, Magatsu, ce qui est déviant, pervers, est une entité intrinsèquement perverse, déviante. C'est le contraire de Nao, de Naobi no Kama, no Kami, n'est-ce pas. Nao veut dire ce qui est droit, ce qui est juste, ce qui est exact aussi. Donc cette divinité a une conduite démentielle, une fureur, on va dire Arabi, Arabu, une fureur divine qui dépasse l'entendement humain et même le contrôle des dieux, ainsi qu'il le précise dans la glose suivante, n'est-ce pas ? En ce monde, Seken, ici nous pouvons lire Yono Nakani, en ce monde, le mal et le manœuvre, le mono ashiku sokonai, vous avez un terme plutôt moral avec ashiku et sokonau, ce qui cause du détriment, comme tout en général, ne peuvent exister en parfait accord avec le juste principe. Et le grand nombre des faits pervers provient entièrement de l'auguste cœur de ce dieu, qui, lorsqu'il est vraiment déchaîné, Itaku Arabimasu Tokiwa, ne peut parfois pas être réfréné, même par l'auguste puissance de la grande déesse Amaterasu et du grand dieu Takami Musubi. Je ne reviens pas sur ce dieu créateur que nous avons déjà vu mentionné par Norinaga et que nous retrouvera aussi au cours suivant, qui assiste Amaterasu en quelque sorte. À plus forte raison, la puissance humaine ne peut-elle rien contre lui, Mashite shito no chikara ni wa ikanitomo semsube nashi, la même idée. Ce déchaînement divin mène à ce que les mortels ont toujours considéré comme le grand mystère du mal. Là, ce ne sont pas les mots de Norinaga, c'est moi qui donne une interprétation plutôt occidentalisante. Et dans cette dernière citation ici, que les gens de bien, yoki shito, n'est-ce pas, c'est-à-dire les gens de bien au sens moral, ici, zen, vous voyez, se heurtent à l'adversité, là vous avez magari, n'est-ce pas, donc que les gens de bien se heurtent à l'adversité, c'est le même mot que magatsu, que les méchants prospèrent, des faits de ce genre allant à l'encontre du principe ordinaire, encore une fois, yo no tsune no kotowari, sont fort nombreux, et ils sont l'œuvre de ce dieu, de ces dieux pernicieux. Les Japonais ont donc la chance, n'est-ce pas, le problème de la question de Job est ainsi évité, Les Japonais ont donc la chance de pouvoir connaître la cause de l'infortune humaine. Elle est directement reliée à la volonté des dieux et ils le savent grâce aux saintes écritures, Mifumi, Mibumi, qui ont préservé la généalogie des dieux et donc la généalogie de la morale, qui, en fait, n'est absolument pas une morale puisqu'elle échappe aux principes ordinaires. La morale étant le principe qui régit les mœurs, c'est vraiment Yonotsune no Kotowari. Il serait vain de mettre les deux sur le même plan. Mais les autres peuples n'ont pas eu cette chance. Alors là, on retrouve le refrain de Norinaga, n'est-ce pas ? Les royaumes étrangers, Totsukuni, n'ayant pas eu la transmission correcte, Tadashiki Tsutae Goto, Tsutau, n'est-ce pas ? Tsutae, la transmission est un terme que l'on va retrouver tout à l'heure aussi. N'ayant pas eu la transmission correcte de l'âge des dieux, ne peuvent avoir connaissance de ces circonstances. Et Yoshi, c'est donc la généalogie des dieux. Et en conséquence, ils ne firent qu'élaborer des idées sur le mandat céleste, n'est-ce pas, le Tenmei chinois, s'évertuant à déterminer toute chose selon un principe naturel, Shikarubeki Kotowari. Ils essayent de trouver dans l'ordre même des choses, Kotowari, une justification au dilemme moral. La conclusion est brève, Ito Oko Nari, ce qui est pure imbécilité. Les doctrines étrangères, chinoises et bouddhiques, donc, ne proviennent que de l'ignorance de cette face divine du mal, ce qui fait qu'ils ont du divin une vision tronquée, leur faisant croire qu'il ne peut être que bon, le mal moral ne concernant que les êtres humains. Mais l'épisode malin des Magatsubi no Kami est incommensurable avec la lumière bienfaisante dispensée au monde entier par la déesse Amaterasu, deuxième citation ici. Cependant, donc, c'est-à-dire malgré le déchaînement des forces mauvaises, la grande déesse Amaterasu, demeurant dans la haute plaine du ciel, Takamanohara, donc c'est hérité de Izanagi et Izanami, n'assombrit pas le moins du monde son auguste et grande lumière. Elle éclaire notre monde. Et les augustes insignes célestes, c'est-à-dire les trois trésors que sont l'épée, le bijou, le miroir, n'est-ce pas ? Nous avons déjà bien vu cela. Aussi, ces augustes insignes célestes, Amatsu Mishirushi, aussi furent transmis sans en rien laisser. Et tels qu'ils furent confiés par elle, l'Empire fut gouverné par son auguste petit-fils, c'est-à-dire Ninigi no Mikoto, qui est à l'origine de la lignée impériale. Comme la glosse qui suit l'explicite plus clairement, Norinaga, en insistant sur la lumière d'Amaterasu qui se déverse sur l'univers, mais plus singulièrement sur le Japon, dont le premier souverain descend directement de la déesse, marque l'originalité de la maison impériale japonaise, qui ne dépend pas d'un mandat céleste confié à un individu complètement humain, voire roturier, comme en Chine, mais est de véritable ascendance divine. Encore une fois, cela souligne l'idée de la transcendance du mal, en quelque sorte. C'est le prologue au ciel qui en indique la naissance, alors que la Chine n'aurait nulle notion d'une telle transcendance. Le ciel, impersonnel chez eux, se contente de donner et retirer son mandat à de vulgaires humains. Au Japon, il ne saurait en être ainsi, c'est la dernière citation ici. Le haut trône, n'est-ce pas, Takamikura, de la lignée solaire, donc Amatsushitsugi no Takamikura, est à tout jamais immuable, Igoku yo nakizo, comme le ciel et la terre, en communion plutôt, n'est-ce pas, vous avez ici cette expression qui est Ametsuchi no Muta, n'est-ce pas ? Muta veut dire comme tomoni, de la même façon que en sympathie avec le ciel et la terre. C'est la preuve que cette voie, en sa sublimité, Ayashiku, et sa singularité, Kusushiku, dépasse les myriades de voies étrangères, juste, sublime et noble qu'elle est. Tadashiki, Takaki, Totoki. De façon assez inattendue, Norinaga fait apparaître la voix japonaise sublime et singulière, alors qu'au début de l'opuscule, quelques lignes plus haut, il avait avancé cette proposition surprenante. À l'auguste époque de l'Antiquité, il n'y avait certes pas d'énonciation du mot « voix ». Michi to yu koto age mo salani nakariki. Nous reviendrons plus tard sur ce mot de koto age, qui est important pour notre propos. Remarquons pour l'instant qu'ici, voix, Michi, ne fait qu'expliciter une locution immédiatement précédente que je vous donne en deuxième position. Puisque l'auguste royaume était gouverné pacifiquement, en tant que royaume pacifique conforme au divin, Kamunagara. Et vous voyez que la voix, ça va être, c'est assez délicat, mais c'est loin d'être incompréhensible, c'est même assez facile. La voix était si incarnée, en quelque sorte, dans les dieux, qu'elle n'avait pas besoin d'être mentionnée à part. Ainsi que Norinaga le dit dans la glosse qui suit cette phrase, et que je vous donne ici. Oui, c'est la troisième citation ici. Dans les chroniques du Japon, au livre de l'empereur Naniwa Nagara no Mikado, donc qui est censé être mort en 652, il est dit que Kamunagara signifie conforme à la voix des dieux. Vous voyez, c'est ce qui était la suite de caractère chinois qui est ici. Kami no michi ni shitagai, n'est-ce pas ? Shitagai tamaite. Conforme à la voix des dieux, donc. Ou encore, ayant naturellement la voix des dieux, Onozukara Kami no Michi Aruo. Norinaga souligne ainsi que la locution ancienne la plus propre à exprimer la voix des dieux ne contenait pas du tout le mot voix. La voix était si naturelle, elle était si inhérente aux dieux que cette locution adverbiale de Kamunagara, où le suffixe Nagara signifie tel que, intégré à, et qui s'analyse a posteriori en suivant la loi des dieux, donc c'est en réalité inanalysable. Les dieux portent en eux-mêmes leur voix, qui est leur mode d'être, entièrement incompréhensible aux mortels. Bon, j'aurais voulu faire une petite digression ici. On trouve chez Norinaga une phrase très brève où il dit que seuls les dieux connaissent l'esprit des dieux, ce qui rappelle, c'est tout à fait une allusion à une citation du Sutra du Lotus, n'est-ce pas, au deuxième chapitre du Sutra du Lotus, dit, seul un Bouddha peut explorer à fond, peut étudier à fond, peut approfondir cette notion de réalité des choses, n'est-ce pas ? Donc vous voyez, c'est toujours le décalage du bouddhisme qui est très souvent derrière ce que dit Norinaga. Donc il ajoute ensuite, pour insister sur le fait que dans l'Antiquité, il n'y avait pas de mention de la voix et que l'on ne faisait pas dénoncer à son sujet, que si le terme existait bel et bien, il ne signifiait que ce qu'il voulait dire en son sens premier, nous l'avions déjà vu, n'est-ce pas ? C'est qu'il n'y avait de chemin que ce qui menait à quelque chose. Je vous l'avais dit, je ne crois pas l'avoir dit. Enfin bon, le terme était donc « mono ni yuku michi koso adikere »« mono ni yuku michi » qui va à quelque chose. Nous reviendrons dans un instant là-dessus. La voie n'était qu'un chemin utilitaire, un chemin vicinal, en quelque sorte. Dans la glosse qui suit, Norinaga se livre à un étalage des divers usages du radical de Michi, qui est Chi, évidemment, Michi, le vieux mot signifiant à proprement parler voie, chemin. Ah, ouais, voici la phrase que je vous avais donnée tout à l'heure, la voie qui mène à quelque chose, le chemin qui mène à quelque chose. Alors voyons-les aussi, ces diverses sens, car ils nous donnent quelques indications utiles. La voix, Michi, nous reviendrons sur les caractères, nous l'avons déjà vu, qui est utilisée, ainsi qu'on l'écrit comme bonne et auguste voix, Umashi, Michi, dans le Kojiki, est composée du mot chemin, que l'on retrouve dans des composés comme sentier de montagne, n'est-ce pas, Yamaji, Yamachi qui devient Yamaji, ou la route, Nuchi qui devient Nuji, accompagné du préfixe honorifique Mi. Ce n'est donc qu'un chemin menant quelque part, encore une fois, Mono ni Yuku Chizo. Cela mis à part, il n'y avait pas de voix dans les âges anciens. Vous voyez, Kamitsuyo ni wa, Michi toyu mono wa nakari shizokashi. On peut dire qu'il n'y avait pas de voix dans les âges anciens. Nous avons déjà vu que sous couvert de donner une transcription phonétique en manyogana du mot michi, ce qu'on voit ici, les premiers mots de la deuxième citation, Nobunaga aimait reprendre la graphie analytique du Manyoshu que l'on pourrait rendre par beau savoir. Vous voyez, mi, chi, mi, voulant dire beau, chi, savoir. Et on pourrait presque traduire aussi par le gai savoir, encore que lui n'aurait sans doute pas apprécié ce genre de concept. Du fait même qu'il s'agisse en japonais ancien d'un terme clairement décomposable, dont nous avons la chance d'avoir bien préservé par ailleurs le radical « chi », le mot « michi », pour ainsi dire, n'existe pas. D'ailleurs, là, j'en avais déjà parlé, je crois, à un moment, mais les tentatives d'étymologie altaïque, donc de « michi », ne marchent pas dans la mesure où qui essaye de ramener le mot « michi » à un mot original de syllabique, de monosyllabique commençant par « m », avec des phonèmes plus ou moins indéterminés, ne peuvent pas se comprendre dans un tel contexte, puisqu'on voit que c'est « chi » qui est le radical et pas « michi ». À l'âge des dieux, les chemins menaient quelque part, il suffisait de les prendre. La suite est donc prévisible. Ces voix dont les maniaques de la Chine nous rebattent les oreilles ne sont pas de chez nous. L'usage de voix à tort et à travers, n'est-ce pas, nani no michi, kure no michi, pour désigner une méthode rationnelle, voilà, c'est la dernière citation ici, n'est-ce pas, vous voyez le nani no michi, kure no michi, et vous voyez le jeu de mots, n'est-ce pas, normalement on peut dire nani no michi, kore no michi, ou bien Kure no Michi, et Kure, c'est une allusion aussi au pays d'Occident, c'est-à-dire la Chine et la Corée. Donc, l'usage de voix à tort et à travers pour désigner une méthode rationnelle, mono no kato wa di arubeki sube, ou des myriades de doctrines, est une constante de l'étranger. Adashikuni no sada nari. La glosse qui suit s'étend longuement sur la différence entre les voies continentales, les voies des sages et des saints, et le mode d'être japonais qui n'avait nul besoin d'être défini par des mots. De ces longs développements, ne retenons que ces phrases essentielles, c'est la première citation ici, c'est pourquoi, n'est-ce pas, yue que l'on lit kare ici, c'est pourquoi dans l'Antiquité, notre royaume, mikuni, le royaume impérial, n'avait nulle doctrine aussi grandiloquente, kuchitaki ou kochitaki, n'est-ce pas? Et pourtant, aussi bas que l'on descendit, il n'y avait nul désordre, et l'empire, Amenoshita, était gouverné dans la sérénité. La lignée solaire, pour sûr, se poursuivit en toute continuité, tonagani, longtemps et longuement, n'est-ce pas? Vient alors cette affirmation qui pourrait passer pour une glosse sur le texte de Lao Tzu, mais qui entend définir la voie japonaise. C'est pourquoi, Sarebaka no Totsukunino, c'est pourquoi, pour emprunter ces termes de Adashikuni, c'est pourquoi, pour emprunter ces termes de pays étrangers, telle est bien la grande voie excellente et insurpassable, parce que la voie existant en sa réalité, il n'y avait pas de mot pour la nommer. Et bien qu'il n'y eût pas de mot pour la voie existait. Michi cho koto nakereba, michi arishi narikeri. Et vous voyez, makoto wa, michi aru ga yue ni, michi cho koto nak. Nous voyons ici se profiler donc derrière la phrase du Tao Te Ching, n'est-ce pas, sur la première phrase du Tao Te Ching, sur la voie éternel, mais aussi le bouddhisme, puisque nous avons cette expression qui est très intéressante, ue monaki suguretaru oki michi nishite, n'est-ce pas, qui n'est qu'une lecture explicative du terme bouddhique mujo-do, qui traduit le sanskrit anuttara bodhi, ce que personne à l'époque de Nobunaga ne peut ignorer. Donc nous avons encore ici une trace de ce métalangage sinoglossique, excusez de ces grands mots. Mais il est vrai que Nobunaga nous prévient qu'il utilise les termes de l'étranger. On ne sait cependant pas jusqu'où il avance dans l'adoption alloglossique, si j'ose dire. La voix existait bien, mais elle n'était pas appelée voix. Cela nous dit en effet quelque chose. C'est l'interprétation commune de Tao Te Ching et de Lao Tzu. On se souvient que Nobunaga avait accepter à demi-mot l'analogie que l'on faisait entre ce qu'il disait et quelques propos du Lao Tzu. Mais il n'y a pas, ou plutôt il n'y avait pas d'argutie à l'époque. Pensez à la différence qui, donc la dernière phrase, n'est-ce pas, Kejime Omoe, n'est-ce pas. Pensez à la différence qu'il y a entre l'exprimer de façon extravagante, hein, kotogoto shiku, et le fait et ne pas le faire, ne pas faire de proclamation, koto age sezu, encore ce terme fondamental, ou dénonciation. C'est ne pas argumenter avec grandiloquence. Encore une fois, kochitaku, kochitaku. C'est donc à partir de cette négation préalable et principielle, non pas de la voix, mais de l'expression de la voix, kotoage, en posant donc la voix qui ne peut être dite, que Nolinaga, quelques lignes plus loin, l'a fait partir, ainsi que nous l'avons vu, du haut du sublime trône céleste, dépassant les myriades de voix de l'étranger, Adashikuni no yorozu no michi ni sugurete. Car en Chine, la situation est inversée. La prolixité verbale est à l'origine de tous les maux, M-A-U-X, du royaume, ainsi qu'il est précisé dans la glose. En Chine, par exemple, Kalakuni, bien qu'existe le mot pour voix, c'est un peu fort de Roquefort, bien sûr, mais bien qu'existe le mot pour voix, la voix n'existe pas. Michi chu yukoto wa aredomo, Michi wa naki ga yueni. C'est pourquoi, dès le commencement, régnait le désordre qui ne fit qu'empirer, midare midarete, de règne en règne, si bien que finalement, l'empire fut entièrement confisqué par les peuples voisins, katae no kuni no shito. La voix dont les Chinois se réclamaient, elle était si malmenée, bien que ce sont les barbares qui, à plusieurs reprises, se sont emparés de la Chine. Et évidemment, à l'époque de Nolinaga, la Chine était sous la domination mandchoue. Il avait sous les yeux l'exemple même de ce qu'il disait. En Chine, donc, l'expression de la voix, le michi no kotoage, hein, ou michi o koto agesu, l'expression de la voix mena à la déconfiture politique. Donc, après en avoir nié la légitimité de l'expression, Nolinaga repose la question que nous nous posons tous. En ce cas, si l'on demande quelle est la voix, ce n'est pas la voix spontanée du ciel et de la terre, amatsuchi no onozukara naru michi, pas plus que ce n'est une voix faite par l'homme. La première proposition est bien sûr un coup de patte à la Haozi et Chuanzi, ainsi que la glose le précise. Quelle est-elle donc en ce cas, cette voix? Nous revenons à son idée première, la dernière citation. Cette voix, c'est la voix que commencèrent les dieux parents, Kamurogi, n'est-ce pas, Izanagi et Izanami, par l'esprit créateur vénérable de Takami Musubi, que nous avons vu tout à l'heure, qui fut reçue et préservée, cette voix, par la grande déesse Amaterasu, puis transmise, encore une fois. C'est ce qui va être répété à plusieurs reprises. Tsutae tamo michi nari, n'est-ce pas? Oui, voilà, c'est ici, n'est-ce pas? Ici encore, on ne peut que remarquer que la locution reçue et portée, vous avez ici uke tamai, n'est-ce pas, dans l'avant-dernière ligne, uke tamai, tamai, vous avez uke tamai, tamochi tamai, et qui est tout, tamochi, c'est simplement un intensificatif de motsu. Et c'est la lecture explicative que tout le monde comprend immédiatement dès qu'on a un peu l'expérience des textes, n'est-ce pas ? C'est la lecture explicative de l'expression bouddhique juji, c'est-à-dire uke motsu, qui s'applique au fait de recevoir et de préserver l'enseignement d'un sutra, et l'enseignement du sutra du lotus. Donc, autre signe du bruit de fond bouddhique, encore une fois, de la pensée religieuse japonaise, telle que même Nolinaga la traite, n'est-ce pas, la retraite. Et la conclusion est inéluctable. C'est la raison pour laquelle nous l'appelons voix des dieux. Kakomote, n'est-ce pas, ou Kakonoyeni, nous l'appelons voix des dieux, c'est-à-dire Kami no Michi, c'est-à-dire Shinto. Le nom de voix est donné par les êtres humains, comme l'indique le verbe d'humilité. C'est Kami no Michi towa mosuzo kashi. Ce sont les hommes qui appellent cela. Et donc, reprenons sa citation du Nihon Shoki, où la locution de Kamunagara, nous l'avons vu, est glosée comme se conformer à la voix des dieux, ou muni spontanément de la voix des dieux. Il souligne que cette idée est précisément le début de la désignation générale de la voix de notre pays. Donc, Mikuni no Michi o Shidoku sashite ieru hajime narikeri. C'est-à-dire que se conformer aux dieux, dans la mesure où cette attitude est naturelle aux habitants du Japon, est la voie de ce pays. Et il semble bien que Norinaga fasse tout pour montrer qu'au Japon, la voie ne désigne pas une méthode, un mode de conduite, mais un mode d'être de l'homme orienté vers les dieux. C'est ce qui ressort de cette glose, la dernière de cette page, j'espère ici. D'après la citation précédente, cette voie ne constitue pas une conduite particulière. Kotonaru okonai ni arazu. Vous voyez, la voie n'est pas une conduite. Okonai, encore une fois, un coup de patte à Confucius, n'est-ce pas, sur la conduite. Vous savez, lorsque trois hommes agissent ou vont ensemble, il doit y avoir parmi eux mon maître, etc. Donc, conduite ou pratique, au sens de la conduite confucianiste ou de la pratique bouddhique, n'oubliez pas que c'est aussi Okonai, c'est aussi le gyo du bouddhisme, cela n'a rien à voir avec la voie des dieux, qui est beaucoup plus simple. Aussi, dire seulement que l'on rend un culte, Itsuki Matsuri Tamo Koto o. Donc, aussi, dire seulement que l'on rend un culte aux dieux a pour ainsi dire le même sens. Shitotsu mune ni atareri. La voix, c'est rendre un culte aux dieux, tout simplement. Si les Chinois ont utilisé le terme de Shinto, Shendao, il n'a rien à voir avec celui de Shinto, Kami no Michi, ainsi que nous le dit Norinaga, n'est-ce pas? Sono, il le dit quelque part, n'est-ce pas? Sono kokoro itaku kotonaru oya. Cela n'a rien à voir. C'est quelque chose de tout à fait différent. Et même les érudits monoshilibito, plongés dans l'étude du Kojiki et des autres textes antiques, contaminés par le malin Magatsuhi no Kami, s'égarent dans les textes chinois. Et tout ce qu'ils pensent et disent est à l'avenant. En un mot, ils ne peuvent comprendre le sens de la voie de vérité. Makoto no michi no kokoro ba esatorazu nam aru. Non, ils sont incapables de comprendre. Voilà donc le mot de voie qui désigne une entité à peine existante ou non dénommable. Affublé d'un déterminant, on ne peut plus ambigu. Makoto, vous voyez, apparaît ici le mot makoto. On ignore ce qu'est la voix. Que dire alors de la vraie voix, ou la voix de vérité, ou la voix réelle, tous les mots par lesquels on peut traduire ce terme de makoto no michi. Nous remarquerons d'abord que cette locution est employée la plupart du temps dans des propositions négatives, ou de sens négatif dans le naobi no mitama. Fort peu souvent d'ailleurs, puisqu'il ne s'en trouve que 5 occurrences. Cela est conforme à la glose qu'ajoute Norinaga. Glose, nous ne donnons que le début, car la suite se comprendra d'elle-même après tout ce que nous avons vu. Puisque le terme de voix n'était pas énoncé, Kotoage Nakarishi, dans l'Antiquité, on ne trouve pas la moindre trace ni de son sens académique, Michi Michi Shiki Kokoro, ni du mot Kotoba lui-même dans les anciens écrits. On n'en avait pas besoin. Michi Michi Shiki, vous voyez la façon ironique dont Nonega utilise ce terme, nous le reverrons encore. Je le traduis par académique, c'est-à-dire c'est la voix telle qu'elle est débattue dans les diverses. C'est presque la scolastique, n'est-ce pas? Les diverses voix. Michi Michi, vous avez beaucoup de voix possibles. C'est sur ce paradoxe que nous quittons le Naobi no Mitama, texte dont il y aurait encore beaucoup à dire, mais moins en rapport avec notre enquête. Dans le Japon antique, directement relié à l'âge des dieux, avons-nous appris, la voix n'était pas nommée tant elle existait réellement, et le concept de voix véritable, Makoto no Michi, renvoie à cette voix indescriptible au-delà de l'énonciation, Koto Age Senu, parfaitement immune au discours analytique, Michi Michishiki, Michi Michishi, des penseurs sinisés. Il aurait fallu suivre la piste du Makoto no Michi en abordant un autre opuscule de Norinaga que nous avons brièvement mentionné au début de notre cours, le précieux étui à peigne Tamakushige, qui est, nous l'avons dit, ce qui se rapproche le plus dans son œuvre d'un traité politique. Je renvoie à cet article de Brownlee, n'est-ce pas, ce Jewel Combox, Motoli no Yara, etc., dans Monumenta Nipponica. Il y a aussi, je crois qu'il en a fait une traduction quelque part, mais je ne l'ai malheureusement pas, ne m'est pas accessible. Rédigé à la demande du seigneur de Ki, il est transmis sous deux rédactions, une secrète en 1787, le Hihon, faisant suite à une première rédaction de 1786, et cette dernière étant publiée en 1789. Tandis que la secrète, le Hihon, ne sera fait qu'en 1851. Je vous renvoie à Brownlee pour ça. Donc ce texte fort court, qui ne fait guère qu'une dizaine de pages, à la différence du Naobi no Mitama, utilise une quinzaine de fois le terme de Makoto no Michi. Je reviendrai là-dessus. Nous avons déjà vu le début à la septième leçon, mais il faut bien noter la différence dénoncée entre la voix et la vraie voix, qui est celle qui est posée face aux autres. Remarquons simplement ici que le précieux étui, après un poème liminaire, s'ouvre sur l'évocation de la vraie voix ou voix de vérité et termine aussi sur la même expression. Imanoyo no shitowa. Imanoyo, voyez-le. Retenez cela parce que ça va... C'est un terme important. Les gens de notre époque n'ont rien d'autre à faire pour leur conduite que d'observer scrupuleusement les augustes lois. Là, c'est le terme commun à l'époque d'Edo, n'est-ce pas, qui domine notre époque, sans se livrer aux conduites divergentes qui ne vise qu'à se mettre soi-même en valeur, kashikodate, et tenir la conduite qui convient à notre époque. Telle est la teneur de la voix véritable qui vient de l'âge des dieux. Et vous voyez que le Makoto no Michi, Kamitsuyo yori ou Shinda yori no Makoto no Michi no Omomuki narikeru. C'est Korezo narikeru, n'est-ce pas ? Donc le Makoto no Michi, c'est la voix ici véritable par rapport aux autres, c'est un terme relatif. Certes, c'est un peu décevant, et encore une fois, voisin d'une lapalissade, mais c'est une affirmation cohérente avec l'idée d'une évidente et essentielle simplicité de la voix divine qui se caractérise par une pureté morale primordiale et défiant l'énoncé. Et on pourrait rapprocher encore une fois ce passage de la conclusion du petit traité de Tominaga Nakamoto, vous vous souvenez, le Okina no Fumi, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, Tominaga Nakamoto, qui est de la génération précédente Norinaga, que Norinaga a lu, encore une fois, et dont il faut remarquer parfois les convergences surprenantes. Je vous donne ici ce texte de Nakamoto. Utiliser l'écriture moderne, vous voyez, vous avez ima, encore une fois, l'avant-dernière ligne, vous avez imanoyo, c'est-à-dire la même expression que chez Norinaga. Donc, je traduirai donc par moderne. Utiliser l'écriture moderne, la langue moderne, manger la nourriture moderne, porter des vêtements modernes, utiliser le mobilier moderne, vivre dans les habitations modernes, suivre les mœurs modernes, respecter les lois modernes, se mêler à ses contemporains. C'est le même mot que chez Norinaga, encore une fois. Se mêler à ses contemporains, ne pas faire le mal, pratiquer le bien, cela constitue la voie véritable. Et c'est aussi la voie, encore une fois, Makoto no Michi, vous voyez. Cela constitue la voie véritable et c'est aussi la voie qui doit être pratiquée dans le Japon moderne. Imanoyo no Nihon ni okonawaru beki michi. Il y a entre les deux textes d'évidentes ressemblances qui nous invitent encore à nous poser la question du rapport entre les idées de Nakamoto et de Norinaga. On remarquera que le premier utilise systématiquement le caractère chinois « se », comme ici, vous voyez, « se » Makoto, pour Makoto, alors que Norinaga le laisse toujours en caractère syllabique. Il faut aussi tenir compte, bien sûr, de l'humour de Makoto, de Nakamoto, pardon, qui manque singulièrement à Norinaga. Voilà. Il nous faut donc à présent faire progresser notre enquête du côté de la poésie de notre auteur, dont nous allons découvrir à la prochaine leçon un aspect fort étrange. Et je vous remercie pour aujourd'hui. Je dirai volontiers à la semaine prochaine.